un chiffre que des fois j'aime souligner, on vendait 2 millions par année dans ma fonction, une petite coopérative de 7, 8, 9 employés. Aujourd'hui, on vend 2 millions par jour. Moi, je te dirais, la meilleure chose que j'ai faite, c'est d'apprendre, d'apprendre beaucoup, puis de toujours vouloir apprendre, s'entourer, avoir un plan, la rigueur d'exécution, là, suis ton plan, puis dans 3 ans, tu révises, dans 5 ans, tu révises.
Michel Delisle, vous êtes chef de la direction d'Aventis Coopérative, une figure emblématique du secteur agricole québécois. Cette direction Aventis, née en 2018 de la fusion de plusieurs coopératives, affiche une croissance impressionnante avec un chiffre d'affaires avoisinant les 700 millions de dollars annuels. L'entreprise se distingue par un modèle coopératif innovant. On va parler d'ailleurs de tout le volet coopération aujourd'hui. Je pense que nos auditeurs veulent en savoir un petit peu plus. Michel, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci. Merci Antoine. Merci de l'invitation.
Et bon, peut-être Michel, on peut commencer avec ce point. Peux-tu nous parler en détail de qu'est-ce qu'une coopérative? On avait déjà eu des discussions avec certains de tes collègues dans le passé, mais je pense que ça vaut la peine de ramener ça à l'attention de notre audience aujourd'hui.
Un des points majeurs, c'est que nos clients sont les propriétaires. Fait que c'est ça un peu la particularité. Fait que nos clients, c'est les membres, c'est les propriétaires. Dans notre cas, c'est une coopérative agricole. Fait qu'on a 3000 propriétaires et 3000 familles de producteurs agricoles qui sont nos propriétaires. On a su même une autre, d'autres catégories de membres, là. Mettons des entrepreneurs en construction. Ils peuvent aussi être membres d'Aventis, puis sont aussi nos clients, mais nos propriétaires en même temps. Fait que ça, c'est quand même une particularité. Puis eux se nomment un conseil d'administration, puis ils m'embauchent comme dirigeant, tu sais, de l'organisation au total tout. Il y a d'autres particularités qu'on va jaser, mais ça, c'est un point quand même là, d'emblée, quand même important à souligner. Le lien de propriété est complètement différent.
Absolument. Absolument. Et puis toi, tu es dans le domaine coopératif depuis 99, si je comprends bien. Ça fait un bon temps que tu es là-dedans.
Oui, tout à fait. Tout à fait. 25 ans déjà.
25 ans. Puis qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine?
Ben, je sais pas si tu me permets une anecdote, là.
Absolument.
Puis moi, j'étais beaucoup impliqué à l'université. Puis là, j'hésitais à faire ma maîtrise. Moi, j'étudiais en agroéconomie. OK? Puis j'hésitais à faire ma maîtrise en économie rurale, que ça s'appelle pour nous, là. Puis finalement, avec mes implications, je dis « Ah non, c'est de la gestion que je veux faire. » Je m'en vais voir mon prof de l'université, je dis « Ah, ben, je ferai pas ma maîtrise en économie, tu sais, je vais aller faire de la gestion. » Fait que il dit « Michel, si tu veux faire de la gestion au Québec, il dit dans le monde agricole, il dit « Va-t'en dans le milieu coopératif. » Il dit « Tu n'auras pas de limite, tu vas pouvoir grandir dans l'organisation, puis tu sais, cheminer là-dedans. » Fait finalement, ben, j'ai fait mes études en administration des affaires, en gestion agroalimentaire. Puis dès à cette époque-là, on était privilégiés. Le Solio, un peu notre fédération, cherchait des jeunes étudiants pour les former pour devenir gestionnaire. Fait que j'ai eu 6 mois de formation, puis à 23 ans, j'étais déjà dirigeant de ma première coopérative. Fait que c'est ça le début de l'histoire, là. Fait que j'ai commencé là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Ouais.
C'est allé assez vite à 23 ans directement dirigeant de ta première coopérative. Puis parle-nous peut-être un petit peu de ton évolution à l'intérieur du groupe, tout ça, parce que tu as quand même gravi les échelons sensiblement rapidement par la suite. Tu as intégré d'autres rôles dans l'organisation. Il y a eu également des fusions à travers tout ça. Peut-être que tu peux nous parler, parce que là, je voyais directeur général de la Coop BD Chaleur, directeur général de la Coop Montmagny, directeur principal division de la Coop Unicoop, puis par la suite, t'es arrivé chez Aventis. Est-ce que tout ça est interrelié un petit peu? Est-ce qu'il y a un lien entre ces différentes coopératives?
Ben, le lien, c'est toutes des coopératives de l'Est du Québec. Puis, tu sais, il y a eu des fusions derrière ça. Au début, quand j'ai commencé, un chiffre que j'aime souligner, on vendait 2 millions par année, tu sais, dans ma fonction, tu sais, une petite coopérative de 7, 8, 9 employés. Aujourd'hui, on vend 2 millions par jour. fonction, fait que ça a quand même évolué. Mais les occasions se sont présentées, puis tu sais, cheminer dans l'organisation par rapport à tout ça. Les derniers mouvements, c'est vraiment, on pourrait dire, des décisions des propriétaires de fusionner les coopératives ensemble. Fait qu'Aventis, c'est né de la fusion de 6 coopératives. Puis j'étais dans une de celles-ci, tu sais, qui aboutit à mon mandat de chef de direction chez Aventis aujourd'hui.
Intéressant. Et bon, il y a peut-être un point que j'aimerais qu'on parle un peu. Tu parles de 2 millions de dollars par jour. J'aimerais juste qu'on soit capable à un certain point de pouvoir situer les gens qui nous écoutent comme qu'une organisation. Là, c'est une question large que je te pose, mais comment une organisation à un certain point arrive à atteindre ce type de croissance, parce que je pense qu'on a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, qui vont bâtir des belles entreprises, qui vont faire du 5, du 10 millions de chiffre d'affaires, des fois qui vont aller à 50 millions de chiffre d'affaires, tout ça, mais quand ça rentre dans les alentours du proche du milliard de dollars de chiffre d'affaires, on rentre dans une galaxie qui est totalement différente ici. À un certain point, comment que ces structures de croissance se mettent en place? Est-ce que c'est uniquement relié à une domination totale de votre marché, des fusions et des acquisitions, de la croissance organique? Comment tout ça s'est mis en place?
Un mélange de tout ça. Il faut comprendre que c'est, mettons, 700 millions de business en région, puis quasiment exclusivement au Québec, puis mettons, au Nouveau-Brunswick. Fait que ça prend quand même des parts de marché assez fortes, assez dominantes dans nos marchés. Mais c'est sûr qu'il y a eu des acquisitions, c'est sûr qu'il y a eu de la consolidation, des fusions. Tu sais, on avait 90 places d'affaires dans le territoire. Tu sais, on a trois métiers, on n'a pas parlé, là, mais on est dans toute l'agricole, évidemment, comme coopérative agricole et tous les intrants. Mais c'est quand même des parts de marché quand même dominantes, puis on a toute la gamme de services complets. On est dans les centres de rénovation BMR avec 25 BMR, mais on est le principal détaillant BMR de tout le Québec. Fait que dans tout l'Est du Québec, puis on est dans des garages de machinerie là, un peu partout au Québec également. Fait que c'est sûr qu'il y a eu, puis il y a eu des acquisitions qui se sont faites, tu sais, de places d'affaires, de certains commerces, mais surtout, je te dirais, là, d'avoir une bonne offre pour, on pourrait dire, avoir une position dominante dans un marché. T'sais? Fait qu'une offre de produits et de services. Puis l'accumulation des années, hein, on est des entreprises qui ont près de 100 ans. Oui, avant-hier, c'est jeune. Mais derrière nous, il y a 100 ans d'histoire. T'sais. Fait qu'on ajoute, on ajoute, on pourrait dire, de la volumétrie puis des services avec le temps. Puis on sous-estime l'importance du secteur agricole, agroalimentaire, mais c'est quand même, t'sais, gigantesque comme activité, t'sais, pour le Québec, mais pour toute industrie. Fait qu'avec des positions dominantes dans un marché important, ben, t'sais, Avantis réussit à occuper cette place-là. Là.
C'est exceptionnel. Puis toi, ton rôle dans toute cette croissance-là, où est-ce qu'il se situe? Est-ce que tu es encore vraiment orienté sur le développement pour faire croître la marque? Est-ce que tu mets davantage de temps peut-être pour diriger ton comité de direction? Où est-ce qu'un rôle d'un dirigeant d'une organisation à 700 millions de chiffre d'affaires va?
C'est sûr que le rôle du début versus le rôle d'aujourd'hui, c'est deux mondes. Hein. Fait que oui, il y a du temps avec l'équipe de direction, mais dans les projets d'acquisition, de partenariat, de fusion, je suis intimement impliqué encore. Là. Puis les gens veulent faire affaire avec la haute direction dans ces dossiers-là, dans ces partenariats-là. C'est sûr qu'on ne regarde plus des partenariats de 50 000 $, 100 000 $. On regarde des partenariats de plusieurs dizaines de millions des fois. T'sais? Fait que c'est la taille des dossiers change, mais on est encore très, très impliqué dans tous les projets là, de acquisition, croissance, partenariat. Mais après ça, l'exécution du plan stratégique. Mais une organisation comme nous, avec le conseil, toute la gouvernance, peut-être une dizaine de co-entreprises, il y a beaucoup de temps de gouvernance également. Puis il y a beaucoup de temps de communication. Parce que, tu sais, dans une organisation comme nous, il y a comme 6 niveaux hiérarchiques. Fait que toutes les stratégies de communication, il faut comme les adapter avec le temps aussi, là, avec 1200, 1300 personnes un peu partout sur le territoire. Ça aussi, il faut comme cheminer et grandir là-dedans. Mais j'adore ça, honnêtement. J'adore le métier, là, la profession. Puis j'adore l'opportunité qu'Avantis a créée d'avoir ce défi-là en région. Nous, on est basé à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis moi, je viens de ce territoire-là, de cette région-là. Et d'avoir ce mandat-là par chez nous, je suis privilégié.
Ben oui, absolument. Puis quand tu dis gouvernance, explique-nous globalement où est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est beaucoup de rencontres? C'est beaucoup de gestion interne? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on explique puis qu'on peut décortiquer avec le terme gouvernance ici?
Ben, mettons le conseil d'administration, évidemment, avec les propriétaires. T'as aussi les sous-comités du conseil d'administration, tu sais, qui alimentent des discussions, tu sais, pour nourrir le conseil d'administration pour faire des recommandations. Fait qu'il y a ça. Il y a mon équipe de direction, tu sais, puis après ça, différents suivis au niveau des projets, des acquisitions. Mais après ça, il y a toute la gouvernance des, peut-être des 10 filiales et partenariats, tu sais, qui amènent aussi, là, des suivis, une reddition de compte. À l'inverse, cette gouvernance-là, des fois, ça peut être un frein ou à la limite, ça peut être du temps important consacré. Mais au sein d'Avantis, moi, je vois ça comme un processus. Fait qu'on a optimisé la gouvernance pour garder beaucoup de temps de valeur ajoutée puis création de valeur, garder ce qui est essentiel dans la reddition de compte, mais pas que ce soit un trop gros frein, on pourrait dire, ou trop de temps occupé, parce que les dirigeants, il faut quand même qu'on soit dans l'activité puis dans les projets. Fait qu'on a travaillé de quand même avec le conseil d'administration, toute l'équipe de direction, on va dire optimiser ces processus-là de gouvernance, tu sais, pour réduire un peu notre temps, mais de garder la valeur ajoutée.
Parce que c'est souvent ça qui peut arriver, c'est qu'au final, on a énormément de temps peut-être qui sont mis en gestion en gouvernance, mais peut-être on analyse tout ça, puis à quel point qu'on a été capable d'impacter nos entreprises en ce moment-là. J'imagine qu'il y a là un peu la nuance de trouver le bon temps à accorder à toute cette gestion de très, très grandes organisations versus intégrer plus de temps pour nos produits, pour nos clients et tout ça.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça le prend, puis honnêtement, quand ça crée de la valeur, tu as une décision de groupe, comme en projet ou en comité de direction, tu as une décision de groupe, ça crée de la valeur. Fait que tant que tu as des discussions qui créent de la valeur, c'est toujours pertinent pour l'organisation, le comité ou la filiale. Fait que c'est de garder ça comme au bon niveau et pas tomber juste dans la réunion pour faire la réunion. Fait que c'est. Puis je pense que c'est de. On pourrait dire de sensibiliser toutes les parties prenantes de ce défi-là puis cet enjeu-là. T'sais? Mais honnêtement, on a quand même beaucoup cheminé là-dedans. Je suis très fier de l'optimisation de la gouvernance qu'on a faite là-dedans. Là. Puis aussi, c'est de rendre ça accessible. Nous, c'est nos clients qui sont, mettons, sur les conseils puis les comités. Fait que c'est des producteurs agricoles qui gèrent leur entreprise, qui ont 10, 20 employés sur la ferme, des fois 2, 3, 4 sur la ferme. Ils ont déjà une entreprise à gérer chez eux. Fait que, puis on veut avoir des gens actifs, tu sais, puis qui sont, on pourrait dire, là, intéressés, mais eux autres aussi, leur temps est limité. Fait qu'on a trouvé le bon équilibre entre leur temps investi, notre temps investi, puis de travailler sa valeur ajoutée. Là. Fait que, c'est sûr que c'est différent. Mais des grandes sociétés, ils ont tous une gouvernance quand même, là, veut pas, avec plein de comités. À la volumétrie on n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
Aventis, au moment où on se passe, c'est combien d'employés au total?
1200 actuellement. Tu sais, mettons.
1200.
Ouais.
Ouais. C'est énorme. Et parle-nous peut-être un petit peu de tout ce processus qui s'est créé un peu avec Solio. Il y a eu beaucoup de consolidation quand même dans tout le volet coopératif, il y a eu de l'intégration. Parlons un petit peu de comment Aventis se situe à l'intérieur de ce gros groupe-là au moment où on se parle.
Il y a eu une volonté politique là, de fusionner les coopératives. C'est venu des conseils des présidents. On appelait ça Vision 2020. Fait qu'on a la carte du Québec s'est séparée en 8 grandes coopératives. Aventis fait figure là, d'un peu dire de leader là-dedans. Fait que leader dans les activités agricoles, puis leader, mettons, dans BMR, fait que comme la plus grande coopérative affiliée à Solio, mais c'est tout des rendus des grandes coopératives là, partout sur le territoire du Québec. Là.
On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi, en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleurs subvention pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Et tout ça a commencé parce que là, je regardais un peu avec Aventis, toi, t'es chef de l'exploitation dès 2018 au niveau de la coopérative, mais est-ce que tout ça s'est lancé à peu près à ce moment-là? Comment tout ça s'est construit?
Il y avait, comme on disait, dans les années, mettons, 2016-2017, on appelait le chantier Vision 2020. Fait que les conseils d'administration, les présidents ont dit, on fait une fusion en 2020 autour de ça pour faire des grandes coopératives, pour être pertinent pour nos membres, tu sais, nos producteurs agricoles, pour les prochaines générations. À cette époque-là, les coopératives se sont mises ensemble dans notre région. Ils ont formé, on pourrait dire, le futur conseil d'administration. Puis ils ont lancé le processus aussi pour choisir des dirigeants en lien avec ça. Fait que, ils ont choisi le chef de la direction, ils ont choisi moi comme chef d'exploitation, qui était comme le candidat prétendu pour prendre la relève par la suite comme chef de la direction. Fait que ça s'est fait là, en collaboration avec l'ensemble des coopératives qui ont formé Aventis.
Intéressant. Et bon, j'aimerais ouvrir un peu la discussion avec toi, Michel, concernant la fusion et acquisition. Donc, on avait une discussion, toi et moi, il y a quelques jours. Est-ce que tu me disais, il y a eu une certaine période peut-être de consolidation à l'intérieur des dernières années pour rapidement, peut-être tranquillement retourner vers une vision plus agressive de croissance, continuer à essayer de grandir le groupe. Parle-nous un petit peu de comment vous approchez le tout fusion et acquisition et comment vous voyez la suite dans les prochains mois, prochaines années.
Fusion, acquisition, nous, on est parti de 6. C'est quand même tout un défi là, de mettre 6 organisations ensemble, bâtir une culture, etc. Mais c'est sûr que le mandat au début d'Aventis, au début du plan stratégique, c'est comme dire, on peut être meilleur avec ce qu'on a. On a déjà une business de 500 millions, 600 millions à l'époque. On peut-tu juste être plus performant puis consolider ce qu'on a? Puis le conseil d'administration, il dit à partir du moment là, qu'on va être robuste là-dessus, on est ouvert à la fin du plan stratégique, de regarder les projets d'acquisition puis de croissance là-dedans. C'est ce qu'on a fait. On a quand même été hyper rigoureux dans notre plan stratégique. Les résultats sont au rendez-vous, mais on a quand même entretenu nos relations en parallèle parce que les projets d'acquisition, ça se travaille sur quelques années, mais qu'on les a entretenus. On a fait les premières années d'Aventis, on a fait l'an passé, puis on a étudié 2-3 autres en 2025 actuellement, des projets de croissance. Mais c'est important de bien les choisir parce qu'avec autant de métiers, il y a beaucoup d'opportunités quand même. Fait que on peut s'égarer. Mais c'est important de bien les choisir tout ça. Mais le conseil d'administration pour eux autres, c'était clair. Là, il faut être meilleur avec ce qu'on a avant de regarder la croissance.
Tu parles de bien les choisir. Quels sont les critères de sélection que vous regardez de votre côté?
Au début, quand on a débuté ça, puis un des choses qu'on a bien fait, on s'est donné deux cibles financières. Une cible financière de rendement quand c'est vraiment dans nos métiers direct. Puis quand on est un peu hors métier, où on allonge la chaîne de valeur, où le risque est plus grand, on s'est mis une autre cible financière. Ça a été quand même précieux parce que ça nous a permis de ne pas dévier, tu sais, puis de regarder. Puis si on le fait, bien, Le rendement était plus haut. Puis pour moi, c'était important d'avoir un fit culturel, les mêmes valeurs et tout. Fait que je mets beaucoup de temps, des fois, juste à aller luncher avec les gens. Parce que souvent, on veut des partenariats. T'sais. Garder les ressources, aller luncher, aller souper. Puis quand il y a un fit de valeur, parce que oui, il y a les cibles financières, mais qu'il y a un fit organisationnel. Mais encore là, si tu me permets une autre anecdote, un événement qu'on a fait cet automne passé avec l'équipe, j'ai fait venir M. Bélanger de Premier Tech. Puis j'avais demandé c'est quoi ses critères, parce qu'ils sont beaucoup en mode croissance également. Puis il était plus élaboré que nous, sur la liste des critères également, là, pour regarder des projets de croissance, acquisition. Fait que on vient de faire l'exercice, justement, là, il y a quelques mois avec le conseil d'administration. Outre, on veut des entreprises gagnantes, performantes, qui ont les mêmes valeurs. C'est quoi les autres critères qu'on se donne dans l'organisation? Fait qu'on s'est fait une liste pour aller là-dedans. Fait qu'on veut des marques fortes. On veut une masse critique. T'sais. On veut l'expertise en lien avec ça. Puis on veut surtout pas que ça nuise à la croissance. Fait que pas avoir des projets qui pourraient nous faire ralentir. Fait qu'on s'est mis des différents critères. Là, question de bien les choisir.
Puis c'est quoi? Est-ce que vous avez un quota annuel d'entreprise que vous voulez intégrer au groupe? Ça ressemble à quoi?
Non, on n'a pas un quota annuel, mais mettons, ça peut ressembler à une ou deux par année. T'sais, ça peut être un peu la. C'est déjà beaucoup, puis c'est pour la tâche, c'est ça va devenir dans notre quotidien ou c'est déjà dans notre quotidien. Fait que, mais ça peut être beaucoup pour certains, là. Mais à l'inverse, quand on regarde le coût inflationniste d'une organisation de 700 millions, tu sais, mettons, on a peut-être 70 millions de masse salariale. Fait que il faut faire la croissance. Fait qu'il faut faire la croissance organique. Il faut faire la croissance, sinon, par acquisition. Sinon, nous, on est dans des métiers de commodité. Hein. Fait que on n'est pas des métiers, mettons, TI ou autre, avec des grosses marges de profit. Fait que d'aller chercher toujours des optimisations d'opérationnels sur des frais d'usine ou de transport ou de logistique est quand même un immense défi. Fait qu'on a besoin de faire de la croissance organique quand même et de la croissance par acquisition pour absorber un peu tous ces coûts-là.
Et puis, tu parlais beaucoup du Québec. À quel point vous êtes obligé, entre parenthèses, d'avoir une grosse partie de vos opérations? Quelle est la vision d'expansion un petit peu dans votre modèle?
Bien, c'est sûr qu'il y a des activités, qu'on a des territoires. On est 8 coopératives. Fait que, mettons, avec nos producteurs agricoles dans les intrants, dans les BMR, on a quand même des zones, des territoires. À l'inverse, on a d'autres métiers qu'on n'a pas de territoire. T'sais. Fait que une des filiales qu'on a, là, c'est, mettons, IEL, Technologie Agricole. Tu avais rencontré Vincent sur un podcast. T'sais. Mais on n'a pas de territoire, mais on va être le leader dans l'Est du Canada. Fait que, on a ouvert des détaillants en Ontario, on est des maritimes, puis on est en mode acquisition dans cette filiale-là. Fait que ça, on n'a pas de territoire. Au niveau de la machinerie agricole, dans certaines lignes de produits, on n'a pas de limite. On pourrait faire encore de la croissance et des acquisitions là-dedans. Fait que c'est variable selon les métiers.
Je comprends très, très bien. Et parlons peut-être un petit peu de tout ce qui est gestion un peu des équipes. Parce que, on parle de croissance, certes, mais je veux dire, garder une culture qui est cohérente à 1200, 1300 employés, ça ne doit pas être un gâteau non plus, ça doit être assez complexe, il doit y avoir des initiatives spécifiques, des mécanismes qu'on doit mettre en place et surtout peut-être garder la même culture entre le début et la fin, ça doit être très, très complexe, un très gros casse-tête également. Comment vous y prenez, vous, à l'interne, pour bâtir ça et pour maintenir une culture organisationnelle qui est forte?
Ouais, bien, excellente question. Puis quand j'ai pris le mandat de chef de direction au début d'aventure, j'avais une discussion avec les présidents à l'époque, puis je me disais, comment je vais réussir à créer une proximité avec mes équipes, avec autant de niveaux hiérarchiques, versus avant que je suis habitué avec des organisations, peut-être j'ai commencé à 10, puis après à 20, puis après à 100 personnes et tout. Puis là, je me disais, ça sera pas possible. Mais plus que je chemine, plus je crois que c'est possible, honnêtement. Mais les stratégies sont complètement différentes. Fait que les stratégies de communication, tiens, faut quand même là les adapter, puis avoir différents canaux de communication en lien avec ça. On peut pas rebâtir à 100% la même proximité. Ça c'est clair, mais on peut tendre vers. Fait qu'on pourrait dire on a des stratégies de communication pour différents tous les groupes dans l'organisation. T'sais, fait que ça soit la, c'est comme nous quand on fait mettons une rencontre des gestionnaires, mais il y a 120 gestionnaires. Fait qu'il y a des stratégies de communication.
Wow.
Il y a des stratégies de communication pour ce groupe-là. Quand on fait la haute direction avec le conseil, on est 50-60. Fait que là, après ça, on fait des rencontres, mettons, avec toute la force de vente, là, puis d'un autre niveau, mais là, on est 200. Fait qu'il y a des stratégies de communication avec différents groupes. Fait que ça, c'est un des points. Puis après ça, l'autre point, je te dirais, qui est quand même précieux, c'est que le message passe par moi, mais il passe par mes équipes, puis il passe par l'autre niveau hiérarchique. Il faut développer l'équipe de direction, puis développer les gestionnaires, Fait que pour faire grandir tout le monde là-dedans. Fait que ça prend plus de temps. T'sais? Mais quand on dit on peut tendre vers, mais c'est ça qu'on fait. Fait que on a déployé, on pourrait dire, un peu toute l'expérience employée, la marque employeur. On a déployé tout ce qu'on veut faire vivre comme l'expérience client au sein de l'organisation. C'est des chantiers de longue haleine pour une plus grande organisation, mais on voit déjà les résultats. Puis ça, on lâche pas l'équipe de direction. On tire tous dans le même sens. Puis là, on voit moi, j'appelle ça un peu l'ordre de marche. Tu sais, ça descend. Puis on peut y arriver. Fait que c'est quand même un défi. Je n'en cacherai pas. Mais à l'inverse, je suis quand même très content de voir où est-ce qu'on en est rendu. Fait que assez fier de tout ça. Fait que ce que je disais, notamment mes présidents, je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est possible. C'est juste un peu plus long, puis les moyens sont différents.
Ah, ça peut être complexe. Avoir une rencontre de gestionnaire à 120 gestionnaires, finalement, c'est un assemblée. Là, littéralement, c'est plus des rencontres. C'est une assemblée où est-ce qu'on présente des nouvelles lignes directionnelles et tout ça, là.
Oui, mais à l'inverse, justement, on essaie de s'améliorer. Fait qu'on fait parler plein de monde, plein de témoignages, plein de collaborations. Officiellement, c'est pas Michel qui doit parler, c'est pas juste l'équipe de direction. Il faut peut-être être une vingtaine à parler. Moi, j'appelle ça la boule de neige. C'est une grosse aime la boule de neige, la rouler dans l'organisation. Fait plus qu'on est de personnes à porter le message, plus on est capable de à descendre également. Si c'est une assemblée assise, comme tu dis, c'est pour les gestionnaires, mais on a un défi d'engagement. Fait qu'on essaie quand même d'aller chercher cet engagement-là. Fait qu'il y a plein d'initiatives, de vidéos, de lancement, de ci, de ça. Que finalement, c'est les employés, c'est les collaborateurs qui embarquent, fait qu'ils mettent la main à la porte et que là, l'engagement grandit. Mais c'est un défi, c'est quand même un défi.
Ah, j'en doute pas. Puis comment tu vois la suite pour grandir tout ça encore? Comment qu'on fait pour passer de 7 millions à 14 millions?
De 7 millions à 14
millions? Excuse-moi, de 700 millions à 1,4 milliard. Tu vois, mes mathématiques ce matin sont pas super bonnes, mais si tu vois un peu l'idée, comment qu'on double encore l'organisation?
Les parts de marché sont quand même très élevées. T'sais? Mais au volume, mettons, on va chercher 2%, 3%, 5% avec la croissance organique. Mais à la limite, c'est de vendre aux mêmes clients d'autres produits ou vendre les mêmes produits à d'autres clients. Fait que ça, dans la croissance organique, là, ça, il y a encore de la place. Il y en a toujours de la place. Puis c'est sûr qu'il va de la croissance par acquisition. Ça, c'est clair. Il y en a. Puis il y en a dans tous les métiers. Dans nos centres de rénovation, dans la machinerie, tu sais, puis dans l'agricole, il y a encore de la place. Puis on pourrait dire qu'on a des métiers parallèles. Tu sais. Je vais encore donner l'exemple, mettons, de IEF. Tu sais, il y a des métiers parallèles. Tu sais, que là, vraiment, c'est ça, c'est des métiers qui peuvent doubler, tripler, tu sais, tout dépendant de la position géographique. Fait que mais ça, c'est clair. Puis un des points, il y a beaucoup d'entreprises sans relais. Puis nous, on n'est jamais vendu. Tu sais, on est un modèle centenaire, puis dans 100 ans, on va être encore là. Fait qu'on, honnêtement, là, tu sais, puis il y a bien des entrepreneurs, tu sais, qui écoutent le podcast, là. On est souvent une organisation qui est un beau partenaire, tu sais, pour faire la transition, tu sais, puis assurer la suite, parce qu'il y a bien des acquisitions, on l'achète, mais on le fait avec des employés. On le fait avec le gestionnaire qui quitte graduellement. Fait que, puis nous, on a le côté financier, tu sais, fait qu'il y a le côté solide back-office qu'on peut supporter. Fait que la personne peut être en phase-out tranquillement. Fait que ça, je vois quand même beaucoup d'opportunités là, dans des transferts là, tu sais, qui n'ont pas d'acheteurs. Fait que Avantis, les coopératives sont très, très bien positionnées. Puis on pourrait dire qu'on est un peu plus créatif qu'avant, dans le sens qu'on est ouvert à plein de co-entreprises puis de partenariats avec des privés. On est ouvert à ça. C'est pas obligé d'être acheté 100% par une coopérative. Là. Fait que ça va être un très gros levier de croissance là, pour le futur de ces partenariats-là.
Exceptionnel. Comment tu maintiens, toi, ton intérêt, ta formation, ton éducation? Est-ce qu'il y a des livres spécifiques que tu as lus qui t'ont aidé un petit peu dans tout ce parcours-là? Comment tu te maintiens à jour?
Je suis pas le plus grand lecteur, mais tu sais, j'en lis, mettons, quelques-uns par année. Les podcasts là, tu sais, que j'aime bien, mais mettons un livre et des podcasts là, que je suis, on pourrait dire, religieusement, là, c'est j'aime bien tout ce qui est autour du management, du leadership. Là. Tu sais, John Maxwell, là, tu sais, ses podcasts, puis ses livres. Là, fait que ça, j'adore ça, honnêtement. Fait que le dernier, là, c'était les 16 lois de la communication là, de John Maxwell. Là. Puis j'ai pris le livre audio, puis à la fin, il rajoute un peu sa saveur personnelle aussi là, dans chacun des chapitres. Là. Fait que ça, j'adorais ça. Puis peut-être j'en soulignerais deux récents, là, plus local québécois. Là, tu sais, Jean-François Chartrand, au niveau des livres, là, j'aime tout ce qui est autour du sport. Là. Fait que l'Olympien au bureau, chimie d'équipe, etc. Excellent conférencier, puis ces livres là autour du sport, mais moi j'adore ça. Là, fait que j'aime le dépassement de soi, puis comment maintenir la performance là dans des événements ou après une défaite, tu sais, comment réagir après ces périodes-là, comment bâtir la chimie d'équipe. Que c'est des exemples là, que tu sais, je partage à l'auditoire. Là.
Et ta routine, toi, ça ressemble à quoi avant, pendant et après le travail?
On pourrait dire méthodique là, dans ma routine. Là. Fait que même au travail, là, tout est assez statutaire. Là. Nos appels, là, mettons, les lundis d'équipe, nos rencontres mensuelles. D'une grande organisation, c'est comme tout un ordre de marche à placer.
Fait que
assez statutaire. Personnellement, mais, tu sais, je veux être avec la famille pour déjeuner puis pour souper. Là. Fait que tu sais, je pars à 7h, je reviens à 6h. Ça, j'essaie d'être discipliné, tu sais, quand même, pour être avec la famille. Mais c'est après ça, c'est de se garder du temps pour, mettons, se ressourcer, évacuer, etc. Fait que moi, je suis un amateur de volleyball. Fait que tous les lundis, je joue au volleyball régulièrement. Puis je suis pas un addict de un sport. Fait que le plein air, c'est vélo montagne, rando, ski de fond, ski alpin, tu sais, qui s'ajoute, mettons, les fins de semaine. C'est à peu près ça ma routine, là.
On se tient actif, c'est important. C'est important tout ça. Michel, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont envie de bâtir des grandes entreprises, des très grandes entreprises?
Je pense pas qu'il faut que tu partes avec l'objectif « je veux bâtir une grande entreprise ». T'sais, ça chemine avec là-dedans. C'est peut-être le premier conseil, mais t'sais, être curieux, poser des questions, apprendre. Moi, je te dirais, la meilleure chose que j'ai faite, c'est d'apprendre beaucoup, très, très jeune, tu sais, puis de toujours vouloir apprendre. Un des conseils, justement, de John Maxwell, il appelle ça la curiosité vorace. Tu sais, fait que ça, c'est quand même un des conseils. S'entourer des bonnes personnes, s'entourer des bonnes équipes, puis avoir un plan, mais moi, je déteste un plan qui reste dans le cartable sur le coin, là, un plan qui est suivi. La rigueur d'exécution, là, t'sais, la discipline d'exécution, ça, je suis très, même, on pourrait dire, sévère là-dessus. Là. On se fait un plan, puis on suit. Là. Fait que, en gros, c'est ça. Mais s'entourer des partenaires, s'entourer des gens, puis avec un plan. Mais c'est sûr que ça prend de l'ambition aussi. Là. Mais je pense pas que tu dois te mettre une cible. Dans 20 ans, je veux telle affaire. T'sais, donne-toi dans 3 ans, je veux tout. Dans 5 ans, je veux tout. Dans 8 ans, dans 10 ans, je veux tout. Puis suis ton plan. Puis dans 3 ans, tu révises. Dans 5 ans, tu révises.
C'est tellement un bon point. Parce que souvent, les gens, c'est de faire la distinction entre le bruit et les signaux. C'est-à-dire que très souvent, tu as un plan qui fait énormément de sens aujourd'hui, mais qui peut moins faire de sens dans un mois. Maintenant, c'est quoi ta discipline à revenir puis à repenser et te dire pourquoi à la base on avait fait ce plan-là. Et plus souvent qu'autrement, tu as fait une bonne réflexion pour le plan. Donc, c'est pas le temps de le changer. Il peut être ajusté, il peut y avoir des nuances. Personne n'avait prévu en 2020 qu'il y aurait une COVID. Personne n'avait prévu par la suite nécessairement qu'il y aurait de l'hyperinflation. Donc, on ajuste, on est flexible, certes. Mais on ne doit pas revoir constamment à tous les deux mois le plan. Parce que sinon, on est plus en train de passer du temps à réfléchir à un plan qu'à l'exécuter. Et c'est ça qui crée au final souvent des stagnations, voire même des décroissances pour des entreprises.
Oui, puis tu sais, on voit ça comme des fois plein de menaces ou plein d'opportunités pour dévier du plan.
Absolument.
Fait que tu sais, de rester focusé, il faut l'ajuster, le plan. L'environnement change beaucoup plus vite même qu'avant. Il faut ajuster le plan, mais rester aligné avec le plan. Puis ça donne une cohérence à nos équipes, à nos troupes. Puis si on veut bâtir une grande organisation, ça ne peut pas être une personne, tu sais. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Fait que la cohérence de plein de monde, tu sais, elle doit être alignée avec un plan. Fait que cette cohérence-là est quand même précieuse, je vous dirais, dans l'exécution du plan. T'sais, fait que c'est peut-être un autre conseil, là, un peu cette. Parce qu'une grande organisation, là, les parties prenantes, il y en a de plus en plus. On ajoute. Là. Mais on ne veut pas les perdre, puis on veut un engagement, puis au maximum. Fait que cette cohérence-là, du début à la fin, est hyper précieuse.
Absolument. Michel, si on veut en savoir plus sur Avantis, si on veut peut-être même se joindre à votre groupe, meilleur endroit pour vous rejoindre?
Personnellement, allez sur LinkedIn, écrivez-moi si vous voulez de l'information. Sinon, allez sur le site Internet d'Avantis, qu'on pourra mettre les coordonnées en lien avec le podcast. Je pense que ça va être la meilleure façon de me rejoindre. Mais gênez-vous pas, à la limite, personnellement, de m'écrire si vous avez des questions, commentaires.
Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Michel Delisle, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissance.